Bonsoir, c'est Ondes Noires, une émission sur l'actualité du polar, présentée par Corinne
et Jacques. Bonsoir. Donc, justement, l'actualité du polar, quelques minutes pour vous présenter un petit peu les dernières nouveautés, des choses très disparates, mais tout aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, d'abord, on vous avait parlé il y a quelques mois assez longuement d'une collection Suite Noire qui était dirigée par Jean-Bernard Pouy, qui était un hommage, on va être très sérieux, à la série noire. Une jolie collection d'objets sympathiques qui se veulent une suite à donc à la collection de poches de la série noire, des petits bouquins avec des auteurs de la série noire qui écrivent des livres dont le titre doit rappeler un ancien titre, devinez de quoi, de la série noire. Donc 4 titres à votre disposition de 4 écrivains. Deux tables, Chantal Pelletier avec Tiré sur le caviste, Michel Barek, un très joli titre Le futon de Malte, Romain Sloncombe, Envoyer la fracture, alors là c'est vraiment ultra confidentiel parce que c'est pas un des titres phares de la série noire, et enfin celui que je vais évoquer aujourd'hui, celui de Caryl Ferré de Vert, V-E-R-T-S. Et pourquoi j'ai eu envie un petit peu de vous parler de ce livre d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'après avoir entendu les actualités, je me suis rendu compte à quel point ce livre avait une importance. C'est l'histoire d'un hooligan, Stade Geoffroy Guichard. J'ai lu ce livre dimanche, juste après avoir entendu ce qui s'était passé samedi soir entre les supporters lyonnais et les supporters des Verts. Et c'est une histoire totalement sordide d'un type qui est fan complètement des Verts, ancienne époque et nouvelle époque, et qui ne vit que pour supporter son équipe. Le seul truc, c'est que l'histoire, petit à petit, il va perdre chacun de ses sens pour s'isoler complètement du reste du monde. Donc il y a une métaphore assez intéressante, car il fait l'errer, mais aussi beaucoup d'humour, donc c'est un livre qui se lit très vite. Je rappelle aussi que le titre de chacun de ces petits ouvrages est de 10 euros.
Le prix.
Le prix ? Décidément, je crois que je vais me coucher là ce soir, c'est pas possible. Alors, on change complètement de registre avec deux livres, on va dire, qui sont des travaux et qui s'adresse à des universitaires, des professionnels de la littérature. Donc, c'est deux livres publiés
ou à des amateurs très éclairés.
Vraiment très, très éclairés parce qu'il y a vraiment une analyse linguistique et littéraire qui est assez poussée. Donc, c'est aux éditions de L'Harmattan. Le premier est de Fabienne Viala. Il s'appelle « Le roman noir à l'encre de l'histoire ». Et c'est un petit peu un tour du monde entier des romans noirs, de Manuel Vasquez-Vasban jusqu'à Didier Deninck, par voir la lunette de l'histoire et de l'historique. Pardon.
Donc, Didier Deninck, qui raconte beaucoup dans ses romans, fait beaucoup allusion à l'histoire. Finalement, le premier, qui racontait un épisode qui n'était pas très connu à l'époque, de la guerre d'Algérie, du massacre des Algériens pendant les manifestations.
Livre qui s'appelle « Meurtre pour mémoire », voilà. D'ailleurs paru, si je ne m'abuse, à la série noire, et ressorti depuis en poche, en folio policier. C'est un livre indispensable pour qui s'intéresse un petit peu au roman policier, au roman noir.
Qui devrait être dans l'école, en fait.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, fortement recommandé. Natacha nous propose de revisiter la lecture de James Ellroy, et plus spécifiquement, parmi tous les livres de James Ellroy, ce qu'on appelle le Quatuor de Los Angeles, qui commence par le Dahlia noir et qui se termine par jazz. Et elle, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, on a trop tendance maintenant à voir James asiatique, surtout par rapport à sa filmographie, ses adaptations cinématographiques, et puis tout ce qu'il peut raconter dans ses interviews. On va dire un petit peu toujours la même chose. Et elle revisite vraiment ces 4 romans sous un angle très particulier et très intéressant. Donc, je rappelle le titre, James Ellroy, je ne le rappelle pas parce que je ne l'ai pas encore dit, La corruption du roman noir, une préface de François Guérif, très intéressante, Ce livre est à 23 €. Quant au précédent, il est à 18 €.
Et elle rappelle un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le meilleur de James Ellroy est quand même dans ses livres, plutôt que dans ce qu'il dit. Et rarement fois dans les films qui sont adaptés, mais c'est pas toujours le cas.
Avec un chef-d'œuvre absolu, le Dahlia noir.
Pour le livre, pas pour le
pour
film.
Pour le livre, pas pour le film. Nous, bien d'accord. On part dans la fiction, Jacques.
On part dans la fiction avec un roman italien d'un monsieur jeune homme, d'un monsieur qui s'appelle Ottavio Capelliani. Son roman s'appelle Qui est Lou Scortino et il est paru aux éditions Métayer. Traduit par Sergio Pani. D'ailleurs, il nous avait parlé
un des grands traducteurs et le directeur de collection de cette...
Voilà, des suites italiennes. C'est un gros volume qui vaut 19 €. Et qui est Lou Scortino, c'est le petit-fils Don Lou Scortino, qui est un mafieux italien, italo-américain plutôt, en fait, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans la banlieue de New York. Lou, lui, en fait, il ne fait que recycler l'argent sale, en produisant des films que, en fait, pas grand monde va voir. De l'autre côté de l'Atlantique, vers l'Adriatique, en fait, en Italie, en Sicile, donc, et à Catane. Catane, c'est l'autre grande ville de la Sicile.
On en a entendu parler
il n'y a pas longtemps, après Palerme.
Au niveau du foot.
Il y a Tony. Tony, lui, ce qu'il aime, c'est faire des barbecues. Des barbecues, comme il dit, pour en essayant de prendre un peu l'accent anglais. Et Tony, il est aussi de la mafia. Plutôt, c'est dans la mafia.
Il est de l'organisation.
Il est de l'organisation, voilà. En fait, et dans sa famille, il y a un chef. C'est le chef ici à Catane, plutôt, plus ou moins de la mafia. C'est l'oncle Sal. Leur business légal ici, c'est la pâte d'amande. La pâte d'amande qu'ils vendent sous toutes les formes et qu'ils exportent chez les cousins d'Amérique.
Il faut dire qu'il y a énormément d'amandiers là-bas.
Voilà, qui doivent être d'ailleurs à peu près, sûrement en ce moment. Mais voilà, l'oncle Sal en ce moment, au moment où se passe le roman, il a un peu de mal à tenir ses troupes et la discipline s'en va plutôt à volo. Et quand un commerçant descend d'un carreau d'arbalète, c'est une flèche quoi, hein, tirée par une arbalète, il descend un flic dans un magasin, là c'est le début de la débâcle. Et il y a l'envoyé d'Amérique, l'envoyé de Don Lou, évidemment, qui venait voir un peu comment ça se passait au vieux pays, il ne va pas tellement apprécier. Et il va falloir pas moins que les deux chefs des deux côtés combinent ensemble un arrangement un peu...
mafieux peut-être, non ?
Voilà, mais un peu aussi bizarre, pour vraiment apaiser l'ambiance. C'est un roman qui se lit avec beaucoup de plaisir. C'est assez drôle de voir des mafieux un peu bidons qui sont en fait finalement que des petits malfrats. Et il a complètement dégraissé tout l'espèce de romantisme et les affects qu'on peut avoir dans les films de la mafia, dans le Coppola. J'adore ça, mais c'est complètement vraiment. Il montre vraiment un autre côté, la mafia par le petit bout de la lorgnette.
Côté plutôt sordide.
Le côté sordide, le côté, c'est des petits. Ils sont bidons, quoi. C'est étonnant, ils n'ont pas cette espèce de gloire. Ils ont les beaux costards comme ça, mais en fait, ils sont rien finalement.
Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un livre qui démystifie un petit peu.
Ça démystifie complètement. Ils sont rien, mais ils sont quand même attention. Hein. Faut pas non plus. Ils ont leur
pouvoir. Les carreaux d'arbalète, c'est pas fait pour étaler la pâte d'amande.
Je meurs pas qu'avec des carreaux d'arbalète. Donc, voilà. Et donc, c'est dans les romans, ça se passe en Italie. Ça se passe un petit peu comme dans les romans de Camilleri, que traduit aussi Serge Cadrupa, au niveau de langue. Il y a l'italien standard, que tout le monde parle. Il y a le sicilien, que beaucoup de gens parlent en Sicile. Et puis, il y a cette espèce de dialecte étrange qui est le mélange des deux. Et en plus, là, il rajoute une couche, parce qu'il y a pas mal d'Américains. Il y a des mots d'anglais parlés...
barbecue.
Comme barbecue, qui sont un petit peu adaptés à l'italien, quoi. Donc, ça, la lecture est un petit peu difficile. Mais par contre, ça donne une vivacité, c'est savoureux quoi, je dis, c'est savoureux comme pour eux, le spaghetti aux sardines quoi, qui est le plat traditionnel de Catane, sicilien. Disons, et pour l'accompagner, on va se prendre un petit Nero d'Avola quoi.
C'est voilà. Sûr. Alors comme ça, je vous lis simplement une ligne sur la biographie étonnante de Capelliani. Il est né à Catane, donc il sait de quoi il parle. C'est un philosophe, il est en train de préparer et il cultive les caroubes. Et il a fondé un groupe de rock.
Voilà, comme quoi...
Très, très... Alors justement en parlant de rock.
Voilà, on va écouter un petit peu de musique, pas vraiment du rock, c'est difficile à qualifier. Le groupe s'appelle les Pupini Sisters, donc ici qui est italienne, les deux autres sont anglaises. Le morceau s'appelle Soul Food Mama, il a été interprété en chantant par le grand Jacques Higelin. Broadway full Cincinnati, don't get icky with the 1, 2, 3. Life is just not so fine on the southern side of a line. Hey! Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Buttery-yaki's like the world seafood. Mama, shrimps and rice are very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Buttery-yaki's like the world seafood. Mama, shrimps and rice are very nice. I like oysters, I do. I like the tasty butterfish.
Non, ce n'est pas nous qu'on applaudit. Bon, c'est pas grave. Une fin d'émission pour vous parler d'un excellent, vraiment un livre à lire absolument. Un livre de Marcus Mald. On vous parle régulièrement de ses écrits parce que pour nous, c'est vraiment un des grands auteurs de romans noirs en France actuellement. Un livre qui s'appelle Garden of Love aux éditions Zulm, éditions qui éditent régulièrement les livres de Mald. Et un livre de 18,50 €, vous ne perdez absolument pas d'argent. Ce titre, c'est aussi le titre, Garden of Love, d'un manuscrit anonyme qu'un flic, Alexandre Astruc, reçoit par la poste. Le manuscrit, je ne sais pas si j'ai précisé, Astruc, c'est un mec qui est au bout du rouleau. Il a été alcoolique, maintenant il est shooté au café car il a réussi à abandonner l'alcool. Sa femme et ses enfants sont morts tragiquement dans un accident de voiture. Et il commence à lire ce livre. Et il se rend compte que son auteur est Ariel Dames, qui est un ancien suspect, le suspect principal, dans une série de meurtres sur lequel évidemment il a enquêté à l'époque où il était encore à peu près lucide. Série de meurtres d'ailleurs jamais élucidée. L'officier découvre à ce moment-là, dans le récit, que c'est de sa propre existence. Mais les cartes ont été complètement mélangées. Et les personnages Garden of Love, ce manuscrit, correspondent aussi à la vie de Dames. Les noms ont été changés, les anecdotes de vie d'Alexandre Astruc, les noms sont ceux de Ariel Dames. Et au milieu de cela, il y a Mathieu et Édouard, deux amis inséparables, et qui eux semblent créés de toutes pièces par l'auteur. Mais ils sont créés de toutes pièces par Édouard Dames, sauf qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'auteur, à Édouard Dames. Alexandre, évidemment, est bouleversé par le manuscrit. Il va pour essayer de comprendre et il se précipite chez Dames, sauf qu'il le trouve suicidé. Donc, persuadé que c'est une ultime vengeance de cet esprit diabolique, Ariel va se tourner vers la seule personne qui semble capable de l'aider, la seule personne qui l'a aidé lors de sa déchéance terrible, sa belle-sœur Marie. Ce roman, c'est un roman complètement diabolique et machiavélique. En fait, le lecteur se retrouve dans une espèce de galerie de glace, dans un jeu de glace, dans un jeu de miroirs, tous plus déformants les uns que les autres, et n'est jamais parce qu'elle est tout. Il n'y en a pas une d'ailleurs de vérité, mais il y en a plusieurs. Et les personnages aussi sont ce que l'on croit saisir à un moment du récit, mais qui nous échappe complètement au chapitre suivant. À mon avis, c'est un livre qui est en quelque sorte une métaphore de la littérature. Où commence la fiction ? Où finit le réel ? Mais en fait, le réel, il n'existe pas, puisque le réel du livre a été créé par l'inventeur qu'on appelle un écrivain. Donc cet écrivain, Marcus Malt, nous manipule tout le temps. Comme d'ailleurs le personnage Ariel Dames dans le manuscrit. Il multiplie savamment, les pièges et les chausse-trappes. Les apparences sont trompeuses et franchement bien malins ceux qui sauront démêler les fils de distance complexes que se délecte à enchevêtrer à l'infini l'auteur. Vraiment un roman et la cerise sur le gâteau, c'est superbement bien écrit. On a l'impression de rentrer dans une partition aux multiples voix, avec de multiples voies d'entrée aussi, des voies d'entrée infinies. Et on voit vraiment tout le talent d'écriture de Marcus Malt, même si, attention, je ne dis pas que ce soit le seul talent, parce que la narration est excellente elle aussi. Ce qui est fantastique dans ce roman, c'est qu'il arrive à mélanger à la fois la noirceur la plus totale avec les sentiments d'être humain, la tendresse, la poésie, dans des situations les plus horribles. En quelques mots, en une ellipse, il fait apparaître la lumière, même s'il est en train de nous parler de destin tordu par le malheur. Alors, pour finir de vous parler de ce livre, une toute petite citation que j'espère ne pas écorcher. Les notes de Schubert continuaient à éclore et mourir dans la même seconde après avoir libéré tout leur suc. Parfum fleur, nos chers disparus dansaient sur la pointe des pieds au milieu de ce chant air. C'est un très, très grand roman, vraiment, se précipiter chez son libraire pour acheter. Donc, je rappelle, Garden of Love, ça vient de sortir chez Ulma, un grand auteur, Marcus Malt.
Et c'est pas difficile à lire, contrairement à ce que peut-être pourrait peut-être laisser penser tout ce jeu de miroir. C'est un roman qui
se lit, et en plus qu'on a du mal à lâcher.
Voilà.
On se retrouve dans quelques minutes.
Après les informations.
Il est 18h30 sur Agora FM. Les informations régionales sont présentées par Claire Guillou et Marie-Cécile Noguès.
Bonjour à tous. Après Antibes, cette